nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette cérémonie du mercredi des cendres est l'ouverture solennelle des pénitences de carême. Pendant 1000 ans, l'imposition des cendres était réservée aux pécheurs publics qui prenaient occasion du carême pour faire pénitence de leurs péchés et être réconciliés avec l'Église à Pâques. Puis, à partir du XIe siècle, cette cérémonie a été étendue à tous les fidèles. Au début, le clergé, même le pape et les fidèles devaient s'avancer pieds nus en signe de pénitence pour recevoir les cendres. Cette coutume n'a pas duré. Quelle est la signification de cette cérémonie ? En nous imposant les cendres avec un signe de croix, l'Église nous redit la sentence que Dieu infligea à Adam, notre premier parent, après son péché. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est en effet par le péché d'Adam que la mort est entrée dans le monde. La pensée de la mort que nous rappelle d'abord cette cérémonie est certainement le moyen le plus efficace pour quitter le péché et vivre de telle sorte que nous soyons trouvés justes aux yeux de Dieu à la fin de notre vie. Car il viendra un jour dont nous ne connaissons pas la date, où chacun de nous sera jugé sur toute sa vie, à l'instant même de la séparation de l'âme avec le corps. Mais il ne suffit pas de vouloir changer de vie, de prendre de bonnes résolutions. Il faut aussi faire pénitence pour nos péchés passés. Et justement, ces cendres sont un sacramental qui nous obtiendra les grâces dont nous avons besoin pour faire pénitence, à condition bien sûr que nous les recevions dans ce but, avec cette résolution. C'est d'ailleurs ce que dit l'un des répons que la liturgie nous fait chanter pendant l'imposition des cendres au rite romain. Réparons les péchés que notre aveuglement nous a fait connaître, de peur que, surpris tout à coup par le jour de la mort, nous cherchions le temps de faire pénitence sans pouvoir le trouver. Demandons-nous donc, qu'est-ce que la pénitence? Que nous faut-il faire? Et quels sont les bienfaits de la pénitence? Tout d'abord, qu'est-ce que la pénitence? Pour Luther, qui ne croyait pas en la grâce sanctifiante, et qui pensait donc que l'homme ne pouvait pas ne pas pécher, le seul moyen d'être sauvé pour lui était de faire un acte de confiance en notre Seigneur. Pas question de réparer nos péchés, puisque pour lui, notre Seigneur les avait déjà réparés par ses souffrances et sa mort sur la croix. Pour l'Église conciliaire actuelle, si elle ne professe pas l'hérésie de Luther, en tout cas sa volonté de se rapprocher des protestants fait que la réparation des péchés par la pénitence a plus ou moins disparu de la prédication. Tandis que la nouvelle liturgie de Paul VI a supprimé tous les jeûnes des 4 temps et des vigiles. Il ne reste plus que 2 jours de jeûne obligatoires dans l'année, le mercredi des cendres et le vendredi saint, trop gênant quand même à supprimer. Il est donc important que nous ayons les idées claires à ce sujet. Vous pouvez relire par exemple le chapitre du catéchisme du Concile de Trente sur le sacrement de pénitence. Le Concile de Trente s'est justement réuni pour condamner les hérésies de Luther. La pénitence, c'est un regret de la volonté qui se repent d'avoir offensé Dieu par le péché. C'est une détestation des péchés commis, avec la résolution de les expier et de réformer nos mauvaises habitudes. Bien sûr, c'est une grâce à demander par nos prières. Une pratique de piété qui aide à obtenir cette grâce est assurément la pratique du chemin de la croix, C'est un bel exercice de carême. Comment rester indifférent en méditant les souffrances de la passion de notre Seigneur pendant le chemin de croix, souffrances dont nous avons été la cause par nos péchés? Et si nous ne pouvons pas toujours faire facilement un chemin de croix dans une église, il faut savoir qu'on peut le faire chez soi en se levant et s'agenouillant entre chaque station. Cette douleur de l'âme qui n'est pas nécessairement sensible ne doit pas cependant conduire au désespoir, comme hélas Judas. Elle doit s'accompagner d'une confiance sans limite en la miséricorde infinie du cœur de Jésus. Quand même j'aurai sur la conscience tous les crimes qui peuvent se commettre, dit sainte Thérèse de l'enfant Jésus, je ne perdrai rien de ma confiance. J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de mon Sauveur. Je sais qu'il chérit l'enfant prodigue. J'ai entendu ses paroles à sainte Madeleine, à la femme adultère, à la Samaritaine. Non, personne ne pourrait m'effrayer, car je sais à quoi m'en tenir sur son amour et sur sa miséricorde. Je sais que toute cette multitude d'offenses s'abîmerait en un clin d'œil, comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Mais la confiance en la miséricorde ne doit pas exclure la nécessité de la réparation. L'Église emploie le mot de « satisfaction » qui vient des mots latins « satis » et « facere », ce qui veut dire « faire suffisamment pour réparer l'injure faite à Dieu et retrouver sa bienveillance ». Il est vrai que les souffrances et la mort de notre Seigneur ont réparé, ont satisfait infiniment pour tous les péchés de l'humanité. Comme le dit saint Jean, Jésus-Christ est lui-même la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Mais cela n'entraîne pas que nous n'ayons rien à faire pour réparer nos péchés. Il convient à la clémence divine de ne pas nous remettre nos péchés sans exiger de nous quelque pénitence, dit le catéchisme du Concile de Trente. Autrement, nous serions exposés à regarder nos fautes comme peu importantes, ce qui nous exposerait à pécher de plus en plus gravement. On voit d'ailleurs que c'est l'œuvre d'un parfait éducateur qu'est le bon Dieu, de faire travailler à leur propre correction ceux qui ont fauté. Et ce sont les mérites de la passion de notre Seigneur qui rendent nos pénitences efficaces pour réparer nos propres péchés. Il y a cependant une condition pour cela. Il faut que nous soyons unis à notre Seigneur en étant en état de grâce. Il faut être amis de Dieu pour que notre pénitence lui soit agréable. D'où la nécessité du sacrement de pénitence, de la confession. Demandons-nous maintenant ce qu'il faut faire. Quelles sont les œuvres de la pénitence? La tradition de l'Église les ramène à trois. La prière, le jeûne et l'aumône. Il y a en effet trois sortes de tentations qui nous font pécher et qui caractérisent l'esprit du monde, selon saint Jean. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil. Alors, le jeûne répare les péchés de la chair, c'est-à-dire les excès dans le boire et le manger, et l'impureté. L'aumône, elle répare la concupiscence des yeux, qui est l'attachement excessif aux biens matériels. Alors on s'en détache en faisant l'aumône. Et la prière, eh bien, elle répare nos péchés d'orgueil, en nous remettant à notre place de créature dépendante. On peut dire aussi qu'il y a trois sortes de péchés. Peut-être d'ailleurs un examen de conscience. Péché contre Dieu, péché contre le prochain et péché contre nous-mêmes. Eh bien, la prière apaise Dieu que nous avons offensé. L'aumône, qui ne consiste pas seulement à donner de l'argent ou à faire des dons en nature, mais aussi à exercer la charité, L'aumône répare nos péchés contre le prochain. Et enfin, le jeûne répare les péchés contre nous-mêmes. Disons maintenant quelques mots des bienfaits de la pénitence. Ils sont énumérés dans la préface du carême. Le jeûne du corps, dit-elle, réprime les vices, élève l'âme et fortifie les vertus. Et saint Thomas d'Aquin fait la remarque suivante. En tant que remède, la pénitence ne profite qu'à nous personnellement. Mais en tant que paiement d'une dette pour le péché, elle peut profiter à notre prochain. Que ce carême soit donc un carême de sanctification et en même temps un carême, un temps de réparation pour les péchés de ce monde et spécialement les péchés de notre pays. Si ce ne sont pas les chrétiens qui font pénitence pour ce pauvre monde, qui le fera? Et comment les âmes se sauveront-elles? Alors prenons quelques résolutions pratiques. On peut en prendre une pour notre vie de prière, une pour acquérir ou perfectionner une vertu et combattre le défaut opposé, par exemple une plus grande assiduité aux devoirs d'État familial ou professionnel contre la paresse ou la négligence. À ce sujet, supprimer Internet pour tout ce qui n'est pas nécessaire. Calculons le temps perdu chaque semaine, chaque mois, pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Que pourrions-nous faire à la place pendant ce temps-là? On n'a pas le temps de lire, de s'occuper du prochain. Et enfin, une pénitence spéciale dans la nourriture. Pour le jeûne, par exemple, eh bien, sauf raison d'âge et de santé, on peut quand même au moins jeûner tous les vendredis de carême. Et puis, d'année en année, on en rajoute un petit peu plus. Et on s'aperçoit que c'est tout à fait faisable. Et par-dessus tout, pendant ce carême, une grande charité envers le prochain, pour que nous ne soyons pas comme des pharisiens. D'ailleurs, c'était l'épître de dimanche dernier. Le carême doit être un carême de charité, en famille et avec tout autre prochain. Que ça se voit. Alors que la Vierge Marie nous aide à faire un vrai carême, elle qui a appelé le peuple chrétien à la pénitence dans toutes ses apparitions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.